À ce moment, le fil de sa pensée s'est arrêté brusquement. Il s'arrêta et leva les yeux. Il se trouvait dans une rue étroite, avec quelques petits magasins sombres intercalés entre les habitations. Immédiatement au-dessus de sa tête étaient accrochées trois boules de métal qui semblaient avoir été dorées autrefois. Il semblait connaître l'endroit. Bien sûr. Il était debout devant la brocante où il avait acheté le journal. Un frisson de peur le traversa. C'était un acte suffisamment téméraire que d'acheter ce livre. Et il s'était juré de ne plus jamais s'approcher de cet endroit. Et pourtant, à l'instant où il laissa ses pensées vagabonder, ses pieds l'ont ramené ici de leur propre gré. C'était précisément contre les pulsions suicidaires de ce genre qu'il espérait se protéger en ouvrant le journal. Il remarqua au même instant que le magasin était encore ouvert, bien qu'il fût près de 9 heures. Avec l'impression qu'il serait moins remarqué à l'intérieur que s'il traînait sur le trottoir, il passa la porte. Si on le questionnait, il pourrait dire avec vraisemblance qu'il essayait d'acheter des lames de rasoir. Le propriétaire venait d'allumer une lampe à huile suspendue qui dégageait une odeur sale mais amicale. C'était un homme d'environ 60 ans, frêle et courbé, avec un long nez bienveillant et des yeux doux déformés par des lunettes épaisses. Ses cheveux étaient presque blancs, mais ses sourcils étaient touffus et encore noirs. Ses lunettes, ses gestes affairés et courtois et le fait qu'il portait une jaquette de velours noir usée lui prêtaient un vague air d'intellectualité, comme s'il avait été quelque homme de lettres ou peut-être un musicien. Sa voix était douce, comme désuète, et son accent moins vulgaire que celui de la plupart des prolétaires. « Je vous ai reconnu sur le trottoir, » dit-il immédiatement. « Vous êtes le monsieur qui avait acheté l'album de souvenirs de jeune femme. » C'était un superbe morceau, certes. Verger blanc, on appelait ce papier. On n'en a pas fabriqué comme cela depuis, je puis dire 50 ans. Il regarda Winston par-dessus ses lunettes. « Désirez-vous quelque chose ? Ou voulez-vous seulement jeter un coup d'œil ?»«
Je passais, » dit vaguement Winston. « Je regardais juste à l'intérieur, je ne veux rien de particulier. »«
C'est aussi bien, » dit l'autre, « parce que je ne pense pas que j'aurais pu vous satisfaire. » Il fit un geste d'excuse avec sa main molle. « Vous voyez comment c'est une boutique vide, pourrait-on dire. Entre vous et moi, le commerce des antiquités est à peu près terminé. Plus de demandes, ni de stock non plus. Les meubles, la porcelaine, le verre, tout a été brisé progressivement. Et bien sûr, le métal a surtout été fondu. Je n'ai pas vu de chandelier en cuivre depuis des années. Le minuscule intérieur de la boutique était en fait inconfortablement plein. Mais il ne contenait presque rien de valeur. L'espace au sol était très restreint, car tout autour, les murs étaient empilés d'innombrables cadres de photos poussiéreux. Dans la vitrine, il y avait des plateaux de boulons et d'écrou, des ciseaux usés, des couteaux à lames brisées, des montres ternies qui ne prétendaient même pas fonctionner, et d'autres bricoles diverses. Seulement sur une petite table dans un coin sur laquelle il y avait une tabatière laquée, des broches en agate et autres, pouvait contenir quelque chose d'intéressant. Winston se dirigea vers la table, et son regard fut attiré par une sorte de bille, une chose lisse qui brillait doucement dans la lumière de la lampe. Il la ramassa. C'était un lourd morceau de verre, incurvé d'un côté, plat de l'autre, faisant presque un hémisphère. Elle avait une douceur particulière, comme de l'eau de pluie, tant dans la couleur que dans la texture du verre. Au cœur de celui-ci, magnifié par la surface incurvée, il y avait un étrange objet rose et alambiqué qui rappelait une rose ou une anémone de mer. « Qu'est-ce que c'est ? » dit Winston fasciné. « C'est du corail, » dit le vieil homme. « Il doit venir de l'océan Indien. On l'encastrait d'ordinaire dans du verre. Il y a au moins 100 ans que cet objet a été fabriqué, plus même, d'après son aspect. « C'est une belle chose, » dit Winston. « C'est une belle chose, » approuva l'autre. « Mais il n'y en a pas beaucoup qu'il dirait de nos jours. » Il toussa. « Maintenant, s'il arrivait que vous vouliez l'acheter, cela vous coûterait 4 $. Je me rappelle d'un temps où un objet comme celui-là aurait atteint 8 livres. Et 8 livres, c'était... Je ne peux le calculer, mais c'était pas mal d'argent. Mais qui aujourd'hui s'intéresse aux antiquités authentiques, même aux peu qui en existent encore ? » Winston immédiatement versa les 4 $ et glissa la chose convoitée dans sa poche. Ce qui le séduisait, ce n'était pas tant sa beauté que l'impression d'appartenir à une époque bien révolue. Le vert doux et couleur d'eau de pluie ne ressemblait à aucun vert qu'il eût jamais vu. L'apparente inutilité de l'objet le rendait doublement attrayant. Winston, pourtant, devinait qu'il devait avoir été fabriqué pour servir de presse-papier. Il était très lourd dans sa poche, mais heureusement, la bosse qu'il formait n'était pas très apparente. C'était un objet étrange, même compromettant pour un membre du parti. Tout ce qui était ancien, en somme, tout ce qui était beau, était toujours vaguement suspect. Le vieillard, après avoir reçu les 4 $, était devenu beaucoup plus enjoué. Winston comprit qu'il en aurait accepté 3 ou même 2. « Il y a une autre pièce à l'étage qui pourrait vous intéresser. Jetez un coup d'œil, » a-t-il déclaré. « Il n'y a pas grand-chose à voir, juste quelques pièces. On prendra une lampe si on monte. » Il alluma une autre lampe et, le dos courbé, ouvrit la voie lentement dans les escaliers raides et usés, puis le long d'un minuscule passage. La pièce dans laquelle ils entrèrent ne donnait pas sur la rue. Elle avait vue sur une cour pavée de galets et une forêt de cheminées. Winston remarqua que les meubles étaient encore disposés comme si la pièce devait être habitée. Il y avait un tapis sur le parquet, un tableau ou deux au mur, et tiré près de la cheminée un fauteuil profond et usé. Une horloge ancienne en verre qui n'avait que 12 chiffres sur son cadran faisait entendre son tic-tac sur la cheminée. Sous la fenêtre, un grand lit sur lequel se trouvait encore un matelas occupait près du quart de la pièce. « Nous avons vécu ici jusqu'à la mort de ma femme, » dit le vieil homme en s'excusant à moitié. « Je vends les meubles petit à petit. Ça, c'est un beau lit en acajou. Ou du moins, ce serait le cas si vous pouviez en retirer les acariens. Mais j'ose dire, vous trouveriez cela un peu encombrant. » Il tenait la lampe en hauteur afin d'éclairer toute la pièce, et dans la chaude lumière tamisée, l'endroit avait l'air curieusement hospitalier. L'idée traversa l'esprit de Winston qu'il serait probablement assez facile de louer la chambre pour quelques dollars par semaine s'il osait prendre le risque. C'était une idée folle, et impossible qu'il devait être abandonné aussitôt que pensé. Mais la pièce avait éveillé en lui une sorte de nostalgie, une sorte de mémoire ancestrale. Il lui semblait savoir exactement ce que l'on ressentait en s'asseyant dans une pièce comme celle-ci, dans ce fauteuil auprès du feu, avec les pieds sur le garde-feu et une bouilloire à côté du foyer. Être absolument seul, dans une paix complète, sans personne qui vous surveille, sans voix qui vous poursuive, n'entendre que le chant de la bouilloire et le tic-tac amical de l'horloge. Il ne pouvait s'empêcher de murmurer « Il n'y a pas de télécran. » « Ah !» dit le vieil homme, « je n'ai jamais eu une de ces choses. C'est trop cher. Et je n'en ai jamais ressenti le besoin, d'une manière ou d'une autre. C'est une belle table de jardin dans le coin, là. Bien entendu, vous devrez y mettre de nouvelles charnières si vous voulez utiliser les rabats. » Il y avait une petite bibliothèque dans l'autre coin, et Winston s'y était déjà intéressé. Elle ne contenait rien que de vieux livres. La chasse et la destruction des livres avaient été réalisées avec la même minutie dans les quartiers prolétaires que partout ailleurs. Il était très peu probable qu'il existait partout en Océanie un exemplaire d'un livre imprimé avant 1960. Le vieil homme qui portait encore la lampe était debout devant un tableau encadré de bois rose qui était suspendu en face du lit de l'autre côté de la cheminée. « Maintenant, si vous vous intéressez aux vieilles estampes, » commença-t-il délicatement. Winston s'est approché pour examiner la photo. C'était une gravure sur acier représentant un édifice de forme ovale aux fenêtres rectangulaires avec une petite tour en avant. Une grille entourait l'édifice et en arrière, on voyait quelque chose qui semblait être une statue. Winston regarda un moment la gravure. Le tableau lui semblait vaguement familier, bien qu'il ne se souvînt pas de la statue. « Le cadre est fixé au mur, » dit le vieil homme, « mais je pourrais le dévisser si vous le souhaitez. » « Je connais ce bâtiment, » dit finalement Winston. « C'est une ruine maintenant, il se trouve au milieu de la rue devant le palais de justice. » « C'est ça, en dehors des tribunaux. Il a été bombardé. Oh, il y a de nombreuses années. » C'était une église à une époque. Saint-Clément d'Annois, il s'appelait. Il sourit en s'excusant comme s'il était conscient de dire quelque chose d'un peu ridicule et ajouta « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. »« Qu'est-ce que c'est ?» dit Winston. « Oh, orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. C'est une chanson que nous chantions quand j'étais petit. » Je ne me souviens pas de la suite, mais je sais qu'elle se terminait ainsi. Voici une bougie pour aller au lit, voici un couperet pour vous couper la tête. Les enfants levaient les bras pour que vous passiez en dessous, et quand on arrivait à « voici un couperet pour vous couper la tête », ils baissaient les bras et vous attrapaient. Toutes les églises de Londres y passaient, les principales du moins. Winston se demandait vaguement à quel siècle l'église appartenait. Il a toujours été difficile de déterminer l'âge d'un immeuble de Londres. Tous ceux qui étaient vastes et imposants étaient automatiquement classés parmi les constructions d'après la Révolution s'ils étaient d'aspect raisonnablement nouveau. Mais tous ceux qui, visiblement, étaient plus anciens étaient imputés à une période mal définie appelée Moyen-Âge. On considérait que les siècles du capitalisme n'avaient rien produit qui eût quelque valeur. On ne pouvait pas plus étudier l'histoire par l'architecture que par les livres. Les statues, les inscriptions, les pierres commémoratives, les noms des rues, tout ce qui aurait pu jeter une lumière sur le passé avait été systématiquement changé. « Je ne savais pas que c'était une église, » dit-il. « Il en reste beaucoup, vraiment, » dit le vieil homme, « bien qu'elles aient été utilisées à d'autres fins. » Quelle était donc la suite de cette chanson ? Ah, je l'ai. Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément. Tu me dois trois fartins, disent les cloches de Saint-Martin. Ah, là maintenant, c'est le plus loin que je puisse aller. Un fartin, c'est une petite pièce de cuivre qui ressemblait à un cent. Où est Saint-Martin ? Dit Winston. Saint-Martin ? C'est encore debout, c'est au square de la Victoire. Contigu à la galerie de peinture. Un édifice qui a une sorte de porche triangulaire, des piliers en avant et un escalier monumental. Winston connaissait bien l'endroit. C'était un musée utilisé pour les affichages de propagande de divers types. Modèles réduits de bombes fusées et des forteresses flottantes, des tableaux de cire illustrant les atrocités de l'ennemi, etc. Saint-Martin-des-Champs, comme on l'appelait autrefois, complétait le vieil homme. Bien que je ne me souvienne d'aucun champ n'importe où dans ces régions. Winston n'acheta pas la photo. C'eût été une possession encore plus incongrue que le presse-papier en verre, et impossible à transporter chez soi à moins de le prendre hors de son cadre. Mais il s'est attardé quelques minutes de plus et découvrit que le nom du vieillard n'était pas Wicks, comme on aurait pu le déduire d'après l'inscription de la façade du magasin, mais Charrington. M. Charrington semblait être un veuf de 63 ans, habitant cette boutique depuis 30 ans. Pendant tout ce temps, il avait eu l'intention de modifier le nom au-dessus de la fenêtre, mais n'avait jamais vraiment réussi à le faire. Pendant qu'il causait, la moitié de la chanson rappelée continua à trotter dans le cerveau de Winston. « Orange et citron, disent les cloches de Saint-Clément, tu me dois trois fartins, disent les cloches de Saint-Martin. » C'était curieux, mais quand on se le disait, on avait l'illusion d'entendre réellement des cloches. Les cloches d'un Londres perdu qui existerait encore quelque part, déguisé et oublié. D'un clocher fantôme à un autre, il lui semblait les entendre sonner à toute volée. Pourtant, d'aussi loin qu'il pouvait se rappeler, il n'avait jamais entendu dans la vraie vie les cloches sonner. Il laissa M. Charrington et descendit dans les escaliers seul. Pour que le vieil homme ne le voie pas surveiller la rue avant de franchir la porte. Il décida qu'après un intervalle convenable d'un mois, disons, il ne prendrait pas le risque de visiter le magasin à nouveau. Ce n'était peut-être pas plus dangereux que d'annuler une soirée au centre. La folie pure était d'être revenu d'abord dans ce magasin, après avoir acheté le journal et sans savoir si le propriétaire du magasin était un homme de confiance. Cependant, oui, pensait-il, je reviendrai encore une fois. J'achèterai d'autres breloques magnifiques. J'achèterai la gravure de Saint Clément. Je la sortirai de son cadre et le ramènerai chez moi, caché sous la veste de ma salopette. J'arracherai le reste de la chanson de la mémoire de M. Charrington. Même le projet fou de louer la chambre à l'étage lui revint à l'esprit un moment. Pendant 5 secondes d'exaltation qui l'ont rendu négligent, il marcha sur le trottoir sans même un regard préalable sur la fenêtre. Il avait même commencé à fredonner sur un air improvisé « Orange et citron, disent les cloches de la Saint-Clément, tu me dois à toi, Fartin, disent les cloches. » Soudain, son cœur se transforma en glace et ses intestins fondirent. Une silhouette en salopette bleue descendait le trottoir à moins de 10 mètres. C'était la fille du département de la fiction, la fille aux cheveux noirs. La lumière était faible, mais il n'eut aucune difficulté à la reconnaître. Elle le regarda en face, puis rapidement continua à marcher comme si elle ne l'avait pas vu. Pendant quelques secondes, Winston était trop paralysé pour bouger. Puis il se tourna vers la droite et s'éloigna en marchant lourdement, sans même remarquer pour le moment qu'il se trompait de direction. En tout cas, une question a été réglée. Il ne faisait plus de doute que la fille l'espionnait. Elle a dû le suivre ici car il n'était pas crédible que par un pur hasard il se soit retrouvé le même soir dans la même rue, à 10 kilomètres des quartiers où les membres du parti vivaient. Qu'elle fût réellement un agent de la police de la pensée ou simplement un espion amateur poussé par un zèle indiscret, importait peu. Le principal était qu'elle le surveillait. Elle l'avait probablement aussi vu entrer dans le café. C'était un effort à présent de marcher. Le morceau de verre dans sa poche frappait contre sa cuisse à chaque pas et il était à moitié décidé à l'enlever et à le jeter. Le pire, c'était son mal de ventre. Pendant quelques minutes, il eut l'impression qu'il mourrait s'il n'atteignait pas rapidement des toilettes. Mais il n'y avait pas de toilettes publiques dans un quartier comme celui-ci. Puis le spasme passa, laissant derrière lui une douleur sourde. La rue était une impasse. Winston s'arrêta, se tint debout pendant plusieurs secondes en se demandant vaguement quoi faire, puis se retourna et commença à revenir sur ses pas. Alors qu'il se retournait, il lui vint à l'esprit que la fille l'avait quitté seulement depuis 3 minutes et qu'en courant, il pourrait probablement la rattraper. Il pourrait suivre sa trace jusqu'à ce qu'il soit dans un endroit calme, puis lui fracasser le crâne avec un pavé. Le morceau de verre dans sa poche serait assez lourd pour le travail. Mais il abandonna tout de suite cette idée car même la pensée d'un effort physique quelconque était insupportable. Il ne pourrait courir. Il ne pourrait asséner un coup. En outre, elle était jeune et robuste. Elle se défendrait. Il pensa aussi à se rendre précipitamment au centre communautaire et à y rester jusqu'à la fermeture, afin d'établir un alibi pour la soirée. Mais cela aussi était impossible. Une lassitude s'était emparée de lui. Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer à la maison, rapidement, puis s'asseoir et se taire. C'est à 22 heures qu'il rentra à son appartement. Les lumières étaient éteintes sur le site principal à 23h30. Il alla dans la cuisine et avala une tasse à thé de gin de la Victoire. Puis il se rendit à la table dans l'alcôve et sortit son journal du tiroir. Mais il ne l'ouvrit pas tout de suite. Du télécran, une voix féminine hurlait un chant patriotique. Il était assis et regardait fixement la couverture marbrée du livre, en essayant, sans succès, d'exclure la voix de sa conscience. C'était toujours la nuit qu'il venait vous chercher. La seule chose à faire était de se tuer avant qu'il ne vous attrape. Sans doute certaines personnes l'ont-elles fait. De nombreuses disparitions étaient en fait des suicides. Mais il fallait un courage désespéré pour se suicider dans un monde où les armes à feu ou toutes sortes de poisons n'étaient pas du tout accessibles. Il pensait avec une sorte d'étonnement de l'inutilité biologique de la douleur et de la peur, la trahison du corps humain qui se fige toujours dans l'inertie au moment précis où un effort particulier est nécessaire. Il aurait pu faire taire la jeune fille aux cheveux noirs si seulement il avait agi assez rapidement. Mais précisément, en raison de l'extrême dangerosité de son action, il avait perdu le pouvoir d'agir. Il fut frappé par le fait qu'en temps de crise, on ne se bat jamais contre un ennemi extérieur, mais toujours contre son propre corps. Même aujourd'hui, malgré le djinn, la douleur sourde dans son ventre rendait impossible toute suite dans les idées. Il en est de même, comprit-il, dans toutes les situations qui semblent héroïques ou tragiques. Sur le champ de bataille, dans la chambre de torture, sur un navire qui coule, les questions pour lesquelles vous vous battez sont toujours oubliées, car le corps se gonfle jusqu'à emplir l'univers, et même lorsque vous n'êtes pas paralysé par la peur ou criant de douleur, la vie est une lutte de tous les instants contre la faim, le froid ou l'insomnie, contre un estomac aigre ou une dent douloureuse. Il ouvrit le journal. Il était important d'écrire quelque chose. La femme du télécran avait commencé une nouvelle chanson. Sa voix semblait s'enfoncer dans son cerveau comme une dentelure d'éclats de verre. Il essaya de penser à O'Brien, pour qui et à qui le journal a été écrit, mais au lieu de cela, il commença à penser aux choses qui lui arriveraient après que la police de la pensée l'aurait emmené. Cela n'avait pas d'importance si vous étiez tué sur le champ. Vous vous attendiez à ce que l'on vous tue. Mais avant la mort, personne ne parlait de ces choses, pourtant tout le monde les connaissait. Il y avait la routine des aveux à subir. Ramper sur le sol en criant grâce, sentir le craquement des os que l'on brise, des dents que l'on émiette et des touffes de cheveux sanguinolents que l'on vous arrache. Pourquoi n'était-il pas possible de supprimer de sa vie quelques jours ou quelques semaines ? Personne n'échappait à la surveillance, et personne ne manquait de se confesser. Lorsqu'on avait une fois succombé au crime par la pensée, on pouvait être certain qu'à une date donnée, on serait mort. Pourquoi cette horreur, qui ne changeait rien, devait-elle être comprise dans l'avenir ? Il essaya, avec un peu plus de succès qu'auparavant, de convoquer l'image d'O'Brien. « Nous nous retrouverons dans le lieu où il n'y a pas de ténèbres », lui avait dit O'Brien. Il savait ce que cela signifiait, ou pensait le savoir. L'endroit où il n'y a pas de ténèbres était l'avenir imaginé, qu'on ne verrait jamais, mais que par prescience, on pourrait imaginer. C'était une poussière amère qu'il eut du mal à recracher. Le visage de Big Brother se glissa dans son esprit, effaçant celui d'O'Brien. Comme il l'avait fait quelques jours plus tôt, il tira une pièce de monnaie de sa poche et la regarda. Dans le visage lourd, calme, protecteur, les yeux regardaient Winston. Mais quelle sorte de sourire se cachait sous la moustache noire ? Comme le battement lourd d'un glas, les mots de la devise lui revinrent. La guerre, c'est la paix. La liberté est un esclavage. L'ignorance fait la force.